L'environnement nordique fait rêver, que ce soit par sa beauté glaciale, la faune majestueuse qui y vit, ou encore les aventures inoubliables que réserve ce territoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Nebulosa, le podcast qui parle de biologie à l'UQAR. Le mardi 21 novembre dernier, j'ai eu la chance d'assister au 4 à 7 sur la nordicité à l'UQAR. Le but de l'événement était surtout de présenter des étudiants et étudiantes et des professeurs qui font de la recherche dans le Nord. Une dizaine d'invités ont donc pu raconter leurs histoires sur scène et moi j'ai pu m'entretenir avec 4 d'entre eux. Il y avait une dizaine d'invités et vous l'avez sûrement compris, mais cet épisode-là sera justement ces mini-entrevues que j'ai enregistrées lors du 4 à 7. Et aussi je tiens à m'excuser pour la qualité sonore dans les entrevues qui contient beaucoup de bruit ambiant. Avec les circonstances, il y avait beaucoup de gens autour, donc ça n'a pas aidé à ce niveau-là, mais c'est déjà très bien, c'est un différent format de ce que j'ai l'habitude de faire, donc vous pourrez toujours me laisser des commentaires si vous aimez ou que vous voulez plus d'événements de ce genre-là. En premier, j'ai pu rencontrer les cocottes nordiques, deux étudiants du laboratoire de biologie intégrative La Flore Nordique, qui ont vécu beaucoup d'aventures dans leur terrain. Aussi, dans la petite entrevue, vous allez voir que le mot « pessière » revient quelquefois. Faut juste savoir que ça signifie que c'est une forêt peuplée par des épinettes. Bonjour, vos noms, c'est...
Frédéric. Alice.
OK. Donc, vous êtes à la maîtrise, c'est ça?
Exact, oui.
En quoi vous faites votre maîtrise?
Mais on fait notre maîtrise en bio, mais j'aime bien dire écologie forestière.
OK. Donc, écologie forestière, vous faites ça avec quel professeur?
Et on est avec Guillaume à La Fontaine, les deux.
Ouais. Et donc là, ce soir, c'est la soirée nordicité, donc vous avez fait votre terrain dans le nord. Vous êtes allé faire votre terrain dans quel endroit?
Oui, on a fait un séjour à la station de recherche du Seine, à la rivière Boniface, la communauté d'Oumiac, puis la communauté de Coujoirapic, sur la baie du Thon.
Parfait. Donc, avec Guillaume, j'imagine que c'était en lien avec l'épinette.
Exact. L'épinette noire dans le cas d'Alice, puis moi, l'épinette blanche et épinette noire également.
Qu'est-ce que vous regardiez exactement sur ces épinettes-là?
Oui, moi, j'étudiais les pessières à mousse, fait que les peuplements d'épinettes noires fermées en toundra forestière, fait qu'à leur limite nordique, pas mal de répartitions au Québec.
Pour ma part, mon projet, c'est de regarder le potentiel de migration puis de dissémination de l'épinette noire et de l'épinette blanche sur un gradient latitudinal, là, donc sur la quasi-totalité de l'aire de répartition de ces espèces-là.
Donc là, dans votre terrain, vous avez fait de l'échantillonnage pour obtenir des données, c'est un peu ça le but. C'était quoi votre manière d'échantillonner?
Moi, en fait, je récolte les cocottes, donc les combes qu'on retrouve dans les arbres. Puis mon objectif, c'est de venir analyser les semences pour connaître leur charge à l'air, qu'on appelle. Donc, on vient regarder la surface de l'aile et la masse de la graine en tant que telle pour savoir c'est quoi, si c'est des bonnes caractéristiques pour la dissémination, puis c'est quoi ces caractéristiques-là pour le nord du Québec, le front de colonisation, mais aussi pour d'autres latitudes plus au sud.
C'est pour ça que votre équipe s'appelait les cocottes.
Exactement,
les cocottes nordiques en plus.
Oui, mon projet, on va particulièrement utiliser des échantillons de sol dans lesquels on va trier puis essayer de retrouver les macrocharbons pour essayer de reconstituer l'historique de feu des peuplements de pessières à mousse marginales puis les peuplements qui sont adjacents, qui sont plus ouverts, fait des landes lichéniques ou des pessières à lichen. Puis aussi, on va dater des échantillons de matière organique pour essayer de trouver la date d'afforestation de ces peuplements-là puis des peuplements qui leur sont adjacents.
Cool. Puis là, vous avez fait une belle présentation. On n'a pas le moyen d'avoir des images, malheureusement, en podcast, mais il y avait plein de belles photos puis de stories Instagram rigolotes. C'est quoi le plus particulier que vous avez vu dans votre séjour?
C'est une question difficile.
Les ours, c'est sûr que ça a été quand même un bon défi. Fait que c'était quand même une anecdote assez poignante, si on peut dire. Mais après ça, je pense qu'un moment fort, c'était vraiment quand on se promenait en quatre roues puis on voyait juste comme toute la baie du Thon à notre droite puis on voyait toute la toundra arbustive. Puis à un moment donné, on voyait juste un troupeau de bœufs musqués. C'était comme le summum, là, mettons. Pour ma part, en tout cas.
Ouais. Mais... moi, je pense que la journée qu'on est allé pêcher la truite grise, c'était vraiment impressionnant. On pensait vraiment... on savait pas ce qu'on allait sortir de là. Puis à chaque fois qu'on sortait un poisson, il était tout le temps de plus en plus ridiculement gros. Puis on se mourait parce qu'on avait une canne à pêche Canadian Tire qui vaut peut-être 25$, qui pliait là, sous la pression. Puis finalement, mon stagiaire a cassé ma canne à pêche. Mais... je pense que ça a été une des journées les plus impressionnantes quand même. Là. Ça, puis on a pris une journée de congé pendant notre séjour à Aumillac. On a loué des kayaks de mer pour aller visiter le lac Guillaume-de-l'Île à Aumillac. C'était vraiment cool.
Ça devait être vraiment incroyable. Mm. Puis vous l'avez pas mentionné, mais vous avez vu 14 ours noirs, si je ne me trompe pas. C'est quand même impressionnant, ça aussi.
En 10 jours, là, on se promenait, puis il y en avait dans la dompe en fait, de la ville. C'est quand on se prenait en pick-up, c'est surtout là qu'on les voyait. Là, que c'était drôle. Là, on s'amusait à les compter juste pour voir combien on allait en voir au total. Puis il y avait quand même une bonne concentration. Là, ouais.
En parlant avec les travailleurs locaux, là, les infirmières puis les policiers, il faut dire que personne n'avait jamais vu autant d'ours noirs. Fait que là, tout le monde, on était comme les célébrités, les personnes qui avaient vu le plus d'ours noirs en une semaine. Fait que là, tout le monde voulait venir sur le terrain avec nous pour voir les ours en vrai.
Vous êtes comme un genre d'aimant.
Oui, on est un aimant.
On arrivait avec des nouvelles anecdotes d'ours noirs à chaque jour, fait que là, tout le monde trouvait ça drôle.
Très cool. Puis j'imagine que pour l'instant, vous n'avez pas de résultats. Vous êtes sûrement en train de commencer à faire vos analyses tranquillement. Ben, je vous souhaite une belle continuité là-dedans, puis une bonne chance pour votre récente maîtrise, puis la suite de votre carrière.
Merci.
Merci beaucoup.
J'ai ensuite rencontré Caroline, une étudiante en océanographie chimique. Donc ici, on sort un peu du domaine de la bio, mais c'est toujours intéressant de voir aussi ce qui se passe autour comme recherche, puis Malucor en général. Donc je vous laisse avec la petite entrevue.
Donc Caroline Guy qui est avec moi, qui étudie en océanographie chimique. Ton projet, c'est dans le cadre de...
Dans le cadre de ma maîtrise, dans le fond, qui est en océanographie. Donc j'étudie l'impact du dégel du pergélisol sur la chimie des eaux côtières.
OK. Donc, en fait, c'est de voir si le dégèlement du pergélisol fait qu'il y a de l'eau qui amène différentes substances.
Oui, exactement.
D'ailleurs.
Oui.
OK.
Que ce soit autant les eaux souterraines que les eaux côtières. On regarde ça dans un transect à partir de la côte jusque dans les eaux de l'océan, au fond. Bon, est-ce qu'il y a plus de carbone, il y a moins de carbone? Est-ce qu'il y a d'autres substances qui seraient apportées par soit ce dégèlement?
Donc, pour ça, il faut que tu fasses de l'échantillonnage d'eau.
Oui, exactement.
Tu le fais où, ça?
Eh bien, moi, je l'ai fait à Cambridge Bay, au Nunavut. Je suis passée 5 semaines là-bas et j'ai ramassé... tu peux ramasser de l'eau souterraine en insérant un piézomètre dans le sol. Et avec une pompe, tu fais juste pomper l'eau. Sinon, l'eau de surface, c'est super simple. Tu t'en vas en bateau et tu fais juste ramasser de l'eau. Et puis de l'eau de fond, c'est que tu prends des carottes, des pergélisols, tu les laisses dégeler puis tu récoltes l'eau après.
Donc avec les carottes de pergélisol, j'imagine que c'est pour faire une sorte de prédiction de ce que ça pourrait faire si celui-là dégèle.
Oui, exactement, pour voir c'est quoi ses composantes. C'est sûr que nous, on n'en a pas eu beaucoup dans le cadre de mon projet pour le moment. Et si on retourne sur le terrain, c'est sûr qu'on aimerait en avoir plus. Parce que ça serait des résultats vraiment intéressants.
Est-ce que tu as vu des choses particulières en allant faire ton terrain dans le nord comme ça?
Dès que je suis arrivée là-bas, il faisait super chaud. Je pense qu'il faisait plus chaud qu'à Rimouski, il faisait 25. Il y avait gros soleil, on était en manche courte. C'était vraiment surprenant. Puis aussi, il y avait beaucoup d'érosion côtière, donc j'ai pu y aller pendant 5 semaines. Et qu'à chaque fois que j'y allais, à chaque jour ou 2-3 semaines, la côte a changé tout le temps. Wow. Elle était jamais pareille.
Mais j'imagine que ça doit avoir un lien avec les changements climatiques, puis c'est quand même assez...
Je pense que je vais pas trop m'aventurer là-dessus, mais je suis pas mal sûre que
c'est ça. C'est assez... triste de voir ça?
Bien, c'est surtout, je pense, ce qui est triste, c'est de voir justement les gens de la communauté qui sont habitués pas vraiment à des climats comme ça. Mmh. Donc, j'ai eu la chance de faire du terrain avec un membre de la communauté qui me disait que c'était beaucoup trop chaud pour lui puis qu'il voyait justement les changements que ça avait sur son territoire. C'est plus, c'est ça, de voir les changements qui affectent la communauté, je trouve ça encore plus triste.
Dans tes analyses chimiques, tu regardes quoi comme composante?
Je regarde les composantes organiques et inorganiques. Ça fait vraiment beaucoup de paramètres. Je regarde autant le carbone inorganique que le carbone organique. Et la matière organique aussi, on essaie de la caractériser. Je regarde les pH, la sanité, plein d'autres paramètres. Honnêtement, j'en ai vraiment beaucoup. Les isotopes stables aussi.
OK, intéressant. Puis Puis ça te permet d'interpréter quoi, ça, au bout du compte?
C'est vraiment de faire plus un transect sur... En fait, c'est super exploratoire comme projet. Là. On ne sait pas trop, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait ça. On regarde surtout l'alcalinité. Donc, l'alcalinité qui peut avoir... qui est pas mal ta capacité tampon de l'eau à absorber un acide avant de subir une modification de pH. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, on est plus concentré là-dessus. On regarde tous les paramètres autour. Puis... on veut savoir est-ce que justement le dégel va avoir un impact positif sur la qualité ou négatif. Donc, est-ce qu'il va augmenter ta capacité tampon de l'eau ou diminuer ta capacité tampon? Donc, en ce moment, on est vraiment focus.
C'est quand même un aspect intéressant parce qu'il y a l'acidification des océans qu'on parle beaucoup. Donc,
c'est très
tendance. Ça serait pour comme, tamponner
cette
acidification de l'eau.
Ouais.
OK, ben, c'était super cool. Merci de t'être
prêt. Merci à toi. C'est cool.
T'es pas prête, mais bonne chance.
En dernier, j'ai rencontré Souhir Marsit, professeur de biologie moléculaire et cellulaire, qui est à l'UQAR depuis 3 ans déjà. J'ai d'ailleurs pu avoir son enseignement dans deux de mes cours. Vous allez voir que son sujet sort un peu de l'ordinaire, mais ça demeure un sujet qui est vraiment important. Sur ce, je vous laisse écouter l'entrevue.
Pour l'événement de nordicité du Cataset à UQAR, il y avait Souhir Marsit qui a fait une présentation de son projet. Puis souvent, on parle beaucoup des grands mammifères, etc., des animaux qu'on voit beaucoup, mais on parle très peu des microbes qui vivent dans le Nord. Donc toi, c'est ça ton sujet de recherche?
Oui, effectivement. En fait, ce que je voulais faire ce soir, c'était un peu faire l'apologie de ces organismes invisibles. Justement parce qu'ils sont invisibles, on n'en parle pas par rapport justement au problème de réchauffement climatique. Et pourtant, ils font partie des écosystèmes, donc ils sont à la base des écosystèmes et beaucoup d'organismes dépendent, leur survie dépend de ces organismes-là. Donc, si eux, ils sont impactés par les changements climatiques, tout le reste va être impacté. Donc, c'est important de les étudier, sauf que jusque-là, ça a été assez négligé. Donc, l'idée, c'était un peu mettre ça à... mettre en avant aussi. Ça que c'est important et que parce que c'est ça, la plupart veulent étudier les renards puis les petits bébés phoques parce que c'est mignon, mais les micro-organismes c'est pas très mignon, déjà on les voit pas, mais c'est pas pour autant, ils sont très importants justement.
Et donc c'est les levures ton organisme modèle, qu'est-ce que tu regardes exactement sur les levures que tu vas échantillonner?
Donc déjà, on essaie de regarder la diversité des levures qui existent. Donc déjà, les différentes espèces qu'on va pouvoir retrouver. L'idée, c'est un peu de faire une collection parce que justement, ces organismes-là, ils sont menacés par les changements climatiques. Donc, ils risquent de disparaître. Donc, c'est urgent de connaître déjà, les connaître premièrement, qu'est-ce qui existe. Puis ensuite, une fois qu'on les connaît, on peut creuser encore plus pour aller un peu plus loin, comprendre les mécanismes d'adaptation. Ces organismes-là, ils sont adaptés à des environnements un peu extrêmes malgré tout, les températures très froides, etc. Donc c'est un peu voir comment les mécanismes finalement d'adaptation. Donc moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est un peu l'évolution, comment l'environnement affecte l'évolution et l'adaptation à l'environnement. Donc, premièrement, connaître la diversité, après ça, un peu creuser sur les caractéristiques de ces organismes-là. Puis après, c'est sûr que ça peut avoir des propriétés qui peuvent être intéressantes de façon plus large en bioremédiation. Ça peut être des voies métaboliques nouvelles qui peuvent justement être importantes pour la bioremédiation ou en agroalimentaire ou en santé aussi.
Oui, comme les levures qu'on utilise déjà en alimentaire.
Justement, on a identifié une levure qui est un ancêtre de la bière, la levure qu'on utilise pour la bière. Donc ça, c'est un point intéressant qu'on aimerait creuser. On a identifié une souche...
Ici, ça?
Oui, dans le Nord. Il y a une des souches qu'on a identifiées qui est un des ancêtres de la levure de bière. Donc, ça, c'est super intéressant.
Est-ce qu'elles ont l'air d'avoir, pour l'instant, un potentiel adaptatif pour les changements climatiques?
C'est sûr que, bon, on est encore dans la phase d'échantillonnage puis de l'identification. Mais c'est sûr que ce sont des espèces connues pour être adaptées au froid, dans les régions froides. Donc justement, pourquoi ça a été intéressant pour la bière, parce qu'il y a certaines bières qui sont faites à basse température. Donc ça a été des levures intéressantes dans ce contexte-là, puisqu'elles sont capables de faire de la fermentation à basse température. Donc mais en vrai, tout ce qu'on utilise pour l'alimentation se trouve dans la nature. Donc c'est des levures qu'on trouve justement dans le nord. C'est pas pour rien qu'elles sont là, parce qu'elles sont adaptées à ces environnements-là.
Les veux-veux-pas, c'est des micro-organismes qui se reproduisent vite.
Oui.
Donc l'évolution doit se faire à une échelle un peu plus rapide, j'imagine.
Alors c'est sûr que moi, justement, un des objectifs, c'est de regarder l'évolution. Donc je fais beaucoup d'évolution expérimentale, justement pour regarder si on... Par exemple, ces organismes-là pourraient servir, par exemple, si on veut regarder comment le réchauffement climatique va impacter les espèces, on peut soumettre ces souches-là à des températures plus élevées, puis faire de l'évolution expérimentale, puis regarder comment ils vont évoluer dans le cas d'une augmentation de la température, par exemple. Donc, c'est sûr qu'au laboratoire, on peut les soumettre à des conditions un peu de réchauffement climatique ou choses comme ça pour voir comment ils vont agir, puis comment ils vont évoluer. Comment est-ce qu'ils vont s'adapter aussi à ces changements-là.
OK. C'est super intéressant. Puis si jamais tu as envie d'en parler plus ouvertement, on peut se recontacter aussi.
OK.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Malheureusement, dans un podcast, je ne peux pas vous montrer de photos, mais sachez que lors de l'événement, on a pu voir beaucoup de photos et de vidéos de toutes sortes, illustrant vraiment la beauté de notre Grand Nord. Mais je vais tout de même essayer de vous mettre accessible un peu de matériel visuel sur mon Instagram. Donc, si vous voulez aller voir, c'est @nebulosa_podcast. Et donc voilà, vous pouvez aller voir. Je mets d'autres photos aussi pour les autres épisodes. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.